210 000 selon la CGT, manifestants hier dans toute la France pour le 1er mai. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est à peu près la moitié. Mais à la limite, peu importe. Dominique Carlac, 210 000 personnes dans la rue un 1er mai, il n'y a pas de quoi faire trembler le patronat.
Je crois que c'est un rendez-vous très particulier. D'abord, c'est un rendez-vous classique du monde du travail qui porte les revendications, les combats comme tous les ans. Mais là, on est dans un moment très particulier politique puisqu'on est dans ce fameux troisième tour. Mmh. On a eu une élection présidentielle qui est quasiment concomitante à ce 1er mai. Donc c'est quelque part assez normal qu'il y ait des attentes qui soient révélées à travers ces manifestations.
Il y a beaucoup de 110 000 personnes. J'allais plutôt, je suppose, dans votre sens, il n'y a pas de quoi... pour la classe possédante, pour les chefs d'entreprise, pour le MEDEF, de quoi redouter une colère quand on ne rassemble que 210 000 personnes dans des manifs syndicales.
Moi, je pense que c'est plutôt le signal de ce qu'on avait révélé dans nos analyses au MEDEF d'une France fracturée. C'est-à-dire que quand on regarde la différence de développement économique qu'il peut y avoir entre la France des métropoles, où il y a toutes les activités, tous les services, et puis la France désindustrialisée, cette fameuse métropole diagonale du vide, en fait, on a affaire à deux France aujourd'hui. On est dans une situation d'inquiétude sociale, d'inquiétude économique, et donc c'est normal que vous ayez ces manifestations.
Pierre-Jacques Mahin, 210 000 manifestants hier le 1er mai, de quoi faire trembler la majorité gouvernementale ? Ou en tout cas l'alarmer ou l'inquiéter ?
C'est une lecture du climat social à un instant T qui est un moment, un rendez-vous très important pour la gauche historiquement. C'est vrai que peut-être au regard des précédentes mobilisations, alors passons les deux années précédentes avec la crise Covid, mais celles des années précédentes étaient sans doute plus importantes. Je pense qu'il faut mettre ces manifestations en perspective de tout ce qui se passe dans le pays, d'une manière générale, des mobilisations sociales à l'échelle des entreprises, des nouveaux travailleurs précaires, les travailleurs ubérisés par exemple, qui se mettent en grève, qui s'organisent, qui montent des syndicats. Je pense aussi à la France, évidemment, des Outre-mer, qui est quand même particulièrement mobilisée et souvent mobilisée, et qui veut dire, qui dit quelque chose du climat social dans notre pays.
Je suis vraiment désolé, mais Stéphanie Villers, vous allez peut-être m'aider. J'entends des choses sur la colère, sur le troisième tour social, sur les législatives à venir. 210 000 personnes dans la rue à l'appel des syndicats. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage absolu, patent, entre la matérialité de la mobilisation hier et ce que j'entends politiquement, qui est très intéressant, mais qui ne se traduit pas concrètement?
En fait, quand même, on voit une montée progressive de l'inquiétude des Français. Alors, ça s'est peut-être pas vu lors du 1er mai assez suffisamment, mais si on interroge et à travers les sondages, on voit bien que les Français sont très inquiets, d'autant qu'en face, les économistes ont bien du mal à donner des informations et un scénario ferme parce que...
Économistes dont vous faites partie.
Absolument, mais parce qu'on dépend de données exogènes qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on sait très bien que l'inflation est liée à la guerre en Ukraine, est liée au zéro Covid en Chine et qui, en fait, et tout ça nous empêche de voir une issue et surtout de dater, de donner une durée à ces incertitudes. Hein. Tant qu'il y aura ce conflit en Ukraine, tant qu'il y aura cette politique malmenée en Chine, eh bien, il y aura des freins à l'économie, des freins sur la croissance et un risque d'emballement sur l'inflation.
Vous voulez réagir, mais on va d'abord écouter une manifestante.
Absolument, une manifestante syndicaliste, responsable à Marseille de la FSU, le grand syndicat enseignant. Vous l'entendez, c'était dans le défilé du 1er mai, syndicaliste, défilé du 1er mai, mais Madame Virginie Aclihuat parle politique.
Ce 1er mai a une coloration encore plus particulière que d'habitude parce qu'on est au lendemain d'une échéance électorale majeure et on est là pour faire entendre notre voix et pour faire entendre au président réélu que les 5 prochaines années, il nous trouvera sur sa route si jamais il a l'intention, malheureusement, de continuer à casser le service public d'éducation, les services publics de manière générale.
Dominique Carlac, il y a un sondage via Voice, 69% des Français anticipent des mouvements sociaux de grande ampleur. Est-ce que vous partagez ce ressenti, cette inquiétude ou cette espérance, qui sait ?
En fait, il y a vraiment un paradoxe en ce moment. L'interview qu'on vient d'avoir n'est pas quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, c'est quelqu'un qui vient du service public. Et il y a un vrai malaise, effectivement, chez les fonctionnaires et dans le monde des services publics. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malaise aussi dans certaines entreprises, mais il y a un vrai malaise. Et ce que je voulais partager tout à l'heure avec ce qu'on disait, c'est que certes, il y a des attentes parce que c'est vraiment concomitant à ce grand moment politique qui est attendu des Français tous les 5 ans. Et là, effectivement, manifestement, la méthode l'Inde doit être changée parce que les Français...
La méthode gouvernementale.
La méthode doit être changée parce que tous les Français, manifestement, attendent quelque chose de nouveau, que ce soit ceux qui étaient dans la rue, mais peut-être aussi les entreprises, dans la façon de gérer le pays. Et là, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on est quand même dans un moment, vous l'avez rappelé, qui nous dépasse un petit peu, parce que cette conjoncture, elle est internationale, et ça n'est pas propre, exclusivement propre à la France, qu'on ait ces inquiétudes et ces manifestations. Donc peut-être y a-t-il il y a bien sûr un rendez-vous politique du moment qui est propre à la France, mais les grandes inquiétudes générées par l'inflation, par l'augmentation des prix des matières premières de l'énergie, ça c'est quand même relativement partagé dans les autres pays.
Jacquemin, non ?
Malheureusement, hein,
c'est tout à fait juste, mais il est un peu facile parfois de donner la nature du climat social par un contexte qui serait le contexte géopolitique de l'inflation. On sait aussi qu'on a construit un système social, politique, François Hollande en a été un responsable, de détricotage. François Hollande avec la loi travail, par exemple, de détricotage des droits des travailleurs. Aujourd'hui, on sent aussi une population. Robert Castel
loi
parlait.
Loi travail 2016, Robert... grande mobilisation à l'époque syndicale. Depuis, les mobilisations sont plus éparses.
Vous voyez, Robert Castel qui parlait de déstabilisation des stables. Aujourd'hui, on est dans une société complètement déstabilisée, y compris d'ailleurs les catégories supérieures, cadres, etc., se sentent aujourd'hui dépossédées de leur avenir. Et donc, c'est vrai que cette déstabilisation par l'agression qu'il y a eu sur le Code du travail, sur les libertés, pas les libertés, la démocratie d'entreprise ne vit plus. Et aujourd'hui, les salariés se sentent moins possesseurs, justement, et maîtres de leur destin au sein d'une entreprise. Et je pense que c'est aussi ça qui naît aussi de la tension sociale qui peut naître. Vous avez raison, Claude, de rappeler que peut-être les mobilisations ne sont pas encore suffisamment présentes, mais sans doute qu'on est dans un contexte politique où ça ne permet pas justement la mobilisation d'émerger, parce que peut-être il y a une traduction politique qui va émerger en juin, peut-être que d'autres mobilisations vont émerger si Emmanuel Macron met d'autres réformes sur la table, comme la réforme des retraites, etc. Donc il y a quand même les signaux qui montrent que les gens ont envie de se mobiliser.
Stéphanie Wiener, on est dans un contexte de stagflation,
oui.
C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il y a ?
Pas encore, mais en fait, on a des indicateurs qui nous indiquent...
Les indicateurs, c'est quoi ? C'est une croissance nulle,
absolument.
Et c'est surtout une inflation de 4,8%.
C'est voilà, ça, c'est lorsqu'on chose, a à la fois...
totalement de, inédit.
On n'a pas de croissance, on a de l'inflation. Alors, on est dans un schéma du pire, en fait, et ça nous fait craindre ce qu'on a connu dans les années 70. C'est-à-dire une inflation galopante. Mais je vous rappelle que dans les années 70, les salaires étaient indexés sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
On va en reparler. La situation aujourd'hui, c'est pas de croissance, augmentation des prix, donc une population qui, presque mécaniquement, souffre de plus en plus.
D'autant que, il y a eu une confusion qui a été créée avec le quoi qu'il en coûte. On sort du quoi qu'il en coûte et, en fait, on a mis à peu près l'État...
Qui
nous a coûté, en gros, entre 400 milliards et 600 milliards de dettes supplémentaires. Alors, l'opinion publique se dit, mais alors, pourquoi ça a une fin ? On a été capable de mettre 400 milliards pendant la crise Covid. Toutes les crises, eh bien, il suffit peut-être de descendre dans la rue, réclamer davantage. Est-ce que, en fait, et c'est en ça, en fait, que le gouvernement précédent a peut-être créé une illusion, faire croire
ou
que tout était possible, alors qu'on dépend du bon vouloir de la Banque Centrale Européenne qui a aidé les 19 pays membres. Et à un moment, en fait, cette politique du quoi qu'il en coûte, financée par la BCE, va finir. La BCE nous a dit au mois d'août...
La Banque Centrale Européenne ?
Oui, la Banque Centrale Européenne nous a dit au mois d'août, j'arrête de récupérer la dette des États. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et ça, en fait, je pense que l'opinion publique ne s'est pas emparée du sujet. On n'a pas, ou en tout cas, on n'a pas expliqué aux Français la situation.
Une réaction ?
Sur le quoi qu'il en coûte, on partage la même réaction. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, c'est comme le découvert sur son compte bancaire. C'est-à-dire que quand on s'y habitue, c'est une drogue dure. On n'arrive pas à en sortir. On s'y habitue